Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Shérif Chekat, l'auteur de l'attaque de Strasbourg, reste introuvable ce soir. Ce délinquant radicalisé a tué deux personnes hier soir en plein marché de Noël. Les enquêteurs privilégient désormais la thèse de l'attentat islamiste. Dans ce journal, le point sur l'enquête avec Sophie Parmentier, l'ambiance à Strasbourg avec Yann Gallic et le commentaire de notre invité, l'avocat Thibaut de Montbrial, spécialiste des questions de sécurité. Emmanuel Macron demande au patron de soutenir le pouvoir d'achat. Le président a reçu aujourd'hui à l'Élysée une centaine de chefs d'entreprise pour apporter une réponse économique à la crise des gilets jaunes. Les explications dans cette édition avec Hakim Kasmi. La police a lancé ce soir un appel à témoins pour retrouver le tueur islamiste de Strasbourg. Shérif Chekat, c'est un Strasbourgeois de 29 ans, originaire d'une cité de Königshofen, dans l'ouest de la capitale alsacienne. Délinquant multirécidiviste, fiché S, il a ouvert le feu hier soir sur la foule du marché de Noël, entre la cathédrale et la place Kléber. Il a aussi utilisé un couteau pour frapper ses victimes. Des témoins l'ont entendu crier « Allah Akbar ». Bilan, deux morts, un Français de 61 ans et un touriste thaïlandais de 45 ans. Et parmi les 13 blessés, il y a une victime en état de mort cérébrale. Sophie Parmentier, shérif Chekat, a déjà échappé à 3 reprises aux forces de l'ordre.
Oui, une première fois, hier matin, alors que les enquêteurs ne se doutent pas encore que l'homme qu'ils recherchent va semer la terreur le soir même au cœur du marché de Noël de Strasbourg. Hier matin, les gendarmes tentent de l'interpeller dans le cadre d'une affaire de tentative d'homicide lors d'un braquage l'été dernier, mais à son domicile, il se casse le nez. Shérif Chekat n'est pas là, chez lui. Les gendarmes découvrent des armes, un fusil 22 long rifle chargé, 4 couteaux, une grenade défensive. Dans le cadre de cette enquête pour braquage, ils interpellent hier matin d'autres suspects. Est-ce que Shérif Chekat l'a su? Est-ce que cette perquisition a déclenché ou précipité l'attaque du soir même? C'est toute la question. En tout cas, à 19h50, hier soir, Shérif Chekat se met à tirer sur des passants avec une arme à feu. Il tue, il blesse, il est aussi armé d'un couteau. Des passants disent qu'il a crié « Allah Akbar, Dieu est le plus grand ». Il tente de l'arrêter dans son périple meurtrier, raconte le ministre de l'Intérieur. Une deuxième fois, le tireur a failli être stoppé, cette fois par des militaires de Sentinelle qui le blessent a priori à un bras. Mais Shérif Chekat réussit à monter dans un taxi qu'il braque. Il confie au chauffeur qu'il vient de tirer sur des militaires et de tuer, dit-il, 10 personnes. Il se fait ensuite déposer devant l'hôtel de police de Strasbourg et là, il tire encore sur un policier en faction devant le commissariat. Nouvelle riposte de plusieurs policiers qui tentent de le poursuivre à moto, mais Shérif Chekat a déjà disparu dans la nuit dans le quartier du Neudorf, moins d'une heure après le début de l'attaque. Et ce soir, il est toujours introuvable.
Sophie Parmentier, merci. 700 policiers et gendarmes sont mobilisés pour la traque de Shérif Chekat. Les contrôles ont été renforcés à la frontière allemande car le djihadiste connaît l'Allemagne pour y avoir fait de la prison après avoir commis une série de délits. Alors depuis ce matin, Strasbourg vit au ralenti, meurtri par un attentat que beaucoup redoutaient au moment du marché de Noël. Les contrôles drastiques à l'entrée du centre historique n'auront pas suffi à empêcher l'attaque. Le reportage à Strasbourg de Yann Gallic.
Un silence pesant règne dans les rues de Strasbourg, habituellement si animé en cette période de Noël. Un silence seulement interrompu par intermittence par les cloches de la cathédrale. Aujourd'hui, la ville est plongée dans une atmosphère de recueillement comme pétrifiée. Dans le centre, la plupart des magasins sont restés fermés, les cabanes de Noël aussi. Mallory tient une boutique de vêtements rue des Orfèvres, là où a commencé la fusillade hier soir.
Les gens sont sidérés, je ne pense pas qu'ils soient inquiets. Je crois qu'ils sont très triste que ça arrive à Strasbourg, parce que c'était quand même la capitale de Noël, la ville était resplendissante. Hier encore, quand j'ai quitté le magasin, il y avait tellement de monde dans les rues, et après ce qui s'est passé, les gens sont maintenant accablés.
Les contrôles ont évidemment été renforcés. Toutes les personnes qui veulent rejoindre le centre-ville à pied sont systématiquement fouillées par des agents de sécurité comme Laetitia. Elle est venue de Nancy en famille pour voir le marché de Noël.
C'est vraiment l'impression de voir un peu une ville morte, parce que tout est fermé alors que d'habitude c'est quand même assez convivial. C'est pour ça qu'on vient aussi, moi qui connais Strasbourg, parce que j'ai de la famille qui habite Strasbourg, j'ai l'habitude de voir cette ville un peu plus vivante, c'est que ça fait bizarre quand même, c'est triste.
Le marché de Noël restera encore fermé demain et il faudra sans doute du temps pour que la vie reprenne son cours normal à Strasbourg.
Le reportage de Yann Gallic à Strasbourg. Invité de ce journal, l'avocat Thibaut de Montbrial, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Bonsoir.
Bonsoir.
Thibaut de Montbrial, shérif chez CAT, était fiché S, connu pour des faits de délinquance. Il a malgré tout réussi à passer à l'action en déjouant la surveillance du marché de Noël. Alors peut-on parler d'un échec des autorités ou faut-il y voir une sorte de fatalité?
Je pense que ni l'un ni l'autre, ce que ça doit d'abord nous rappeler, c'est que la menace du terrorisme islamiste que certains avaient cru pouvoir mettre un petit peu de côté dans les considérations immédiates de sécurité qui touchent notre pays, se rappelle cruellement à nous. Ensuite, pour répondre très, très précisément à votre question, il va falloir attendre des détails, parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent, qui ont besoin d'être vérifiées, mais il y a un point d'interrogation majeur tout de même, c'est que s'il est confirmé que hier matin, shérif Chekat a échappé à une opération de police judiciaire recherchée pour tentative de meurtre, qu'on a trouvé une grenade chez lui et que donc il était activement recherché, il faudra évidemment voir dans quelles conditions il a pu arriver dans le centre historique de Strasbourg, qui est l'un des endroits les plus sécurisés de France pendant le marché de Noël, pour y pénétrer sans être intercepté. Là, je pense qu'il y a une interrogation majeure.
Comment faire pour renforcer la surveillance des fichiers S?
Encore une fois, la fichesse, il faut le dire, le répéter, le marteler, c'est un outil de travail qui est un outil d'évaluation interne au service de renseignement. Il y a différents degrés de fichesse. À chaque fichesse est associée une conduite à tenir auquel le service qui contrôle quelqu'un et verré sur l'ordinateur qui des fichiers S doit s'astreindre. Donc, en soi, parler du contrôle des fichiers S, c'est très réducteur. En réalité, la dangerosité des gens est évaluée par un autre fichier que le FSPRT, qui est le fichier qui recense tous les gens de radicalisation à caractère terroriste. Et là, pour faire très court, il y a des réunions hebdomadaire dans chaque département pour évaluer la dangerosité de chacun des membres qui est fiché au FSPRT du département. Et ensuite, on assigne aux uns ou aux autres des moyens de surveillance. Il y a le haut de spectre qui est pris en charge par la DGSI et les gens dont on considère qu'ils sont un peu moins dangereux, qui sont pris en charge par le renseignement territorial. Encore une fois, il y a des exceptions, je fais un très gros trait. Toute la difficulté, c'est que nous avons des services qui sont efficaces, hein, il y a eu beaucoup d'attentats déjoués, mais qui sont sous-dimensionnés humainement et matériellement face à l'ampleur de la vague des gens qui sont susceptibles de passer à l'acte. Bon, il faut le dire et le répéter, le nombre d'islamistes dangereux en France est un nombre extrêmement élevé et à budget constant par ailleurs, c'est impossible de les surveiller tous.
Alors justement, on parle de fichiers S, de radicalisés, mais on parle moins facilement d'islamisme. C'est pourtant de cela qu'il s'agit.
Bien sûr, non, mais ça c'est certain. Encore une fois, le terrorisme, ça n'est qu'un moyen. Il est mis au service d'une politique. Cette politique, c'est l'islamisme, c'est du terrorisme islamiste. Le terrorisme tout seul, ça veut absolument rien dire. Il y a eu dans d'autres moments de l'histoire de France, dans les années 80 par exemple, un terrorisme d'extrême gauche avec action directe. Voilà, c'était l'extrême gauche politique qui utilisait le terrorisme. Là, c'est l'islamisme. Encore une fois, c'est un concept politique et il faut surtout pas tomber dans le travers de ne pas le nommer sous prétexte qu'il ne faudrait pas faire d'amalgame. Personne ne fait d'amalgame, personne ne dit que c'est la religion qui est en cause, c'est une doctrine politique qui est assise sur la religion, mais ça c'est la réalité objective, et ne pas le nommer ou utiliser des périphrases, ne pas nommer l'ennemi, ne pas comprendre ce qui nous arrive, ne pas comprendre qu'on a affaire à des gens qui veulent déstabiliser notre système, et pour bien réagir, il faut bien identifier. Quand vous êtes médecin, si vous voulez soigner une maladie, il faut nommer des symptômes.
Thibaut de Montbrial, shérif Chekat, est originaire d'une cité de Strasbourg, c'est donc un djihadiste local, si l'on peut dire. Ces djihadistes du coin de la rue, c'est la plus grande menace aujourd'hui?
Alors oui, mais pour deux raisons. La première, c'est qu'ils ont une capacité propre ou par petits groupes locaux à passer à l'acte. On l'a vu malheureusement régulièrement depuis 2 ans. Mais la deuxième raison, c'est qu'ils peuvent également servir de main-d'œuvre à des gens beaucoup plus, je ne vais pas dire beaucoup plus dangereux parce que ce serait terrible par rapport à ce qu'on a vu hier, mais beaucoup plus structurés, beaucoup plus expérimentés, beaucoup plus aguerris, et qui sont les anciens combattants d'Irak et de Syrie, et qui, soit parce qu'ils sont été en prison et vont bientôt sortir, hein, je vous rappelle qu'il y a 450 islamistes qui vont sortir de prison d'ici à 2020, soit parce qu'ils n'ont été ni tués ni arrêtés, et qu'ils reviennent d'Irak et de Syrie, et là je pense les services de renseignement évoquent pas simplement les Français mais les francophones, ce qui fait 5 nationalités, les Belges, les Français et les 3 pays du Maghreb, ça fait plus de 5000 personnes. Et là vous avez des individus extrêmement dangereux, aguerris, et qui sont capables d'aller dans les cités dont vous venez de parler pour recruter les gens auxquels on fait référence et les former pour en faire des combattants beaucoup plus dangereux. et un jour peut-être avoir recours à des actes de type militaire sur notre territoire qui seraient beaucoup plus élaborés. Et il faut vraiment insister sur le fait que aujourd'hui, nous ne sommes pas à l'abri d'un acte dit complexe, c'est-à-dire d'une attaque de type 13 novembre, qui pourrait frapper différents endroits d'une même ville ou différentes villes sur une journée, sur deux journées. Et c'est un scénario auquel malheureusement nos services se préparent, même si ce sont des risques qui sont un peu éloignés des préoccupations du grand public depuis l'affaire des Gilets jaunes notamment. C'est une menace qui est aujourd'hui au moins aussi prégnante que depuis 2 ans.
Thibaut de Montbrial, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Emmanuel Macron poursuit son offensive pour désamorcer définitivement la crise des Gilets jaunes. Après les annonces sociales lundi, le président a reçu aujourd'hui une centaine de chefs d'entreprise à l'Élysée. Hakim Kasmi, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Le chef de l'État qui attend des patrons qu'ils soutiennent le pouvoir d'achat.
Oui, ordonner du pouvoir d'achat pour sortir de la crise en sollicitant les entreprises. Telle est la nouvelle stratégie d'Emmanuel Macron. À commencer par la prime de Noël, le chef de l'État a confirmé qu'elle serait bien défiscalisée et ce, sans être obligatoire. Alors si les grandes entreprises comme Total, Altice ou LVMH ont confirmé qu'elles la verseraient bien, cela risque d'être encore bien plus compliqué pour les TPE et les PME. Alain Briset, président de l'UDEP qui représente les artisans et les commerçants.
Ceux qui ont aujourd'hui une activité économique satisfaisante, ils voudront pouvoir permettre à leurs salariés d'avoir un meilleur pouvoir d'achat. Mais malheureusement, beaucoup d'entre elles ne sont pas dans cette situation. Et moi, j'estime à peu près aller à 10% maximum du nombre d'entreprises qu'on représente, sur 2,3 millions, qui pourront immédiatement faire ce geste.
Le chef de l'État leur a également confirmé et demandé de réfléchir à des solutions pour lutter contre la fracture territoriale et numérique, et ce dans tous les départements, ce qui passe notamment par la fin des zones blanches, selon Stéphane Richard, le PDG d'Orange.
Moi j'ai évoqué la résorption des zones blanches dans mon secteur. Je pense que c'est un domaine où on peut peut-être accélérer les choses. Ça fait partie aussi de la lutte contre cette fracture territoriale. Parce que ça crée aussi un sentiment d'abandon des territoires. Donc je pense qu'on peut accélérer les choses. Il faut que chacun regarde dans son domaine ce qu'il peut faire dans l'immédiat. Et je pense aussi qu'il faut que les entreprises participent à l'effort de refondation qui est à faire devant nous.
Enfin, le président de la République a aussi insisté sur la formation, l'emploi et l'apprentissage pour les personnes les plus fragiles, comme les handicapés, les jeunes issus des quartiers. Toutes ces mesures seront présentées de manière concrète lors d'une nouvelle réunion avec les entreprises et le président de la République en janvier à l'Élysée.
Hakim Kasmi, merci. Après l'attentat de Strasbourg, le gouvernement, mais aussi le patron des Républicains, Laurent Wauquiez, demande aux Gilets jaunes de ne pas manifester samedi. Mais ce soir, on trouve toujours sur les réseaux sociaux des appels à l'acte 5 de la mobilisation. Partons à Londres à présent, où les députés du Parti conservateur se prononçaient ce soir pour ou contre Theresa May. Un vote de défiance à l'encontre de la première ministre britannique, une partie de sa majorité l'accusant de brader les intérêts du Royaume-Uni avec son accord sur le Brexit. On retrouve à Londres notre correspondant Antoine Gignot. Bonsoir.
Bonsoir.
Antoine, Theresa May qui vient en fait à l'instant de remporter ce vote de défiance.
Absolument. 200 voix pour, 117 contre. Theresa May reste donc à la tête du Parti conservateur avec une vraie victoire. Elle obtient plus de voix qu'en 2016 lors du vote de confiance, mais elle va tout de même devoir faire des concessions. La première ministre s'est engagée tout à l'heure face aux élus conservateurs à quitter le 10 Downing Street avant les législatives de 2022. Elle leur a dit « Je comprends votre inquiétude, laissez-moi boucler le dossier du Brexit, je partirai ensuite ». Et puis Theresa May va aussi devoir donner des garanties à ses anciens alliés du DUP, les unionistes nord-irlandais. Ils réclament des changements dans le texte de l'accord sur le Brexit et sans eux, la première ministre n'a toujours pas de majorité au Parlement. Elle reste fragile. Jeremy Corbyn, le chef de file de la gauche, a d'ailleurs toujours la possibilité de déclencher à l'échelle du Parlement un autre vote de défiance. Le scrutin de ce soir ne change rien à la vie de notre nation, explique ce soir le leader. leader travailliste.
Antoine Gignot en direct de Londres, merci, avec donc Theresa May qui vient de remporter ce vote de défiance. Y a-t-il un début de fronde sociale en Hongrie? En tout cas, 2000 personnes manifestent ce soir devant le Parlement à Budapest. Une foule venue dénoncer les dernières réformes du gouvernement de Viktor Orban. Il y a notamment cette modification du code du travail qui augmente le plafond d'heures supplémentaires qu'un patron peut demander à ses employés. 400 heures par an sans garantie d'être payé. C'est ce que disent les syndicats hongrois. Le temps demain, nouvelle dégradation pluvieuse sur l'ouest. Ce mauvais temps gagnera ensuite le sud du pays. Il neigera en montagne à basse altitude. Sur les autres régions, le ciel sera variable. Température minimale de moins 3 à 9 degrés du nord-est à la Méditerranée. Les maximales iront de 1 à 16 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Benetto.